Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons la série « Le retour de Christ implique l'évangélisation ». Aujourd'hui, c'est la leçon numéro 6 et notre étude concerne « Être tout près du royaume ne suffit pas ». « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu », disait Jésus-Christ à un scribe. Il dut être ravi de s'entendre adresser cette parole devant tous. Pourtant, il aurait dû être attristé de savoir qu'il ne possédait pas le royaume de Dieu. Et oui, cela ne sert pas à grand-chose d'en être, disons, tout près. Ça ne sert pas à grand-chose. Il faut, au contraire, y être entré dans le royaume de Dieu. Pensez, par exemple, aux vierges folles, qui étaient devant la salle des noces, mais n'y pouvaient pénétrer. Chers amis, savez-vous que être presque sauvé, c'est tout simplement être perdu? Dans une épaisse jungle de l'état du Bhoutan, on chasse le tigre. Les chasseurs ont sur eux la clé d'un refuge construit pour servir d'abri en cas de danger. Un jour, l'un d'eux prit son fusil et sortit. Apercevant un tigre, il le visa, tira. Malheureusement, il le manqua. L'animal se mit aussitôt à le poursuivre. L'homme, croyant pouvoir atteindre la cahute, se sauva en jetant son fusil. Sur le seuil, il chercha la clé. Il l'avait oubliée. Alors le tigre bondit et le tua. Entre le refuge et le chasseur, il n'y avait que l'épaisseur de la porte. Et cependant, l'homme perdit la vie par son insouciance. Il serait mort s'il avait été à 10 lieues de la cabane. Il n'en mourut pas moins en étant tout près de la cabane. N'étant pas loin du royaume de Dieu, beaucoup en négligent la clé. La clé qui est la repentance et la prière persévérante. Ils n'ont tout simplement pas compris. Et de ce fait, ils ne peuvent pas entrer dans le royaume. Il y a donc un danger de perdre les dons et les grâces que nous avons reçus. Si ce n'était pas le Seigneur ne nous aurait point adressé cet avertissement. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. C'est pourquoi veillez et priez. Dieu est amour, donc il nous donne l'occasion de nous repentir. Si nous la dédaignons, nous n'en aurons pas d'autres occasions après la mort. Christ ne serait pas descendu sur la terre si une chance nous était offerte d'être sauvés plus tard. Il serait resté au ciel. Sachez bien que on ne peut pas se sauver soi-même. Aucun effort personnel, aucune bonne œuvre ne peut nous obtenir la grâce du pardon. La justification et la paix de l'âme sont des dons immérités de la miséricorde de Dieu qu'il nous faut tout simplement recevoir par la prière dans l'humilité, la repentance et la foi. Mais le pardon des péchés n'est pas le salut complet, pas du tout. Il ne suffit pas de couper les rejetons d'un arbre pour le détruire. Il faut en arracher les racines et tout le terrain alentour doit être renouvelé. La rédemption implique la transformation de l'être tout entier. C'est une nouvelle naissance totale. Il peut arriver que même après avoir obtenu le pardon, nous mourions dans notre péché. La chose essentielle qui importe plus que tout, c'est d'être affranchi de la domination du péché. Jésus-Christ n'est pas venu seulement pour nous pardonner, mais pour nous délivrer. Une jeune fille enlevait chaque jour les toiles d'araignée dans sa chambre. « Ma fille, lui fut-il dit, à quoi sert d'enlever ces toiles qui reviennent constamment ? Il vaudrait mieux détruire l'insecte qui les tisse. Si tu tues l'araignée, il n'y aura plus de toiles. De même, il ne suffit pas que nos péchés journaliers soient sans cesse tout simplement pardonnés. Il faut faire mourir en nous le vieil homme qui les commet. Eh oui, voyez-vous, bien des gens se trompent en croyant qu'il suffit que leurs péchés soient remis pour qu'ils soient sauvés. Tant que leur nature pécheresse n'a pas été transformée, ils sont encore perdus. Le but ultime de l'incarnation de l'amour divin, c'est d'amener l'humanité à la ressemblance du Fils de Dieu. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Croyez en Christ, c'est tout simplement revêtir Christ, c'est devenir un avec lui, c'est de vivre de sa vie. Il y a certains insectes dont la couleur et la forme ressemblent à s'y méprendre aux feuilles des arbres sur lesquels ils vivent et dont ils se nourrissent. Ainsi, ceux qui vivent au contact de Jésus-Christ sont transformés en son image. Satan sème le doute dans le cœur des enfants de Dieu, mais par sa grâce, le juste échappe à cette emprise. Écoutez ce récit. Avant d'être converti, un saint avait commis plusieurs crimes. Mais ensuite, il servit sans cesse le Seigneur et mena une vie sainte. Lorsqu'il fut sur son lit de mort, Satan lui tendit la liste de ses fautes passées et lui dit « Voilà tout ce que tu as fait. Tu n'es pas digne d'être au ciel. Ta place est en enfer. » Le saint répondit, « Mon sauveur ne jettera point dehors celui qui vient à lui. Oui, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Cependant, Satan continue à le troubler. Mais le saint persévéra résolument dans la prière. Or, un jour, un doigt apparut, barrant la liste des péchés. Le saint se réjouit et loua Dieu. Mais Satan lui dit, « Ne te réjouis pas trop, tu peux atteindre le ciel, mais ton péché sera toujours visible à tous les yeux et tu auras honte devant tous. le saint pria à nouveau. Alors une goutte du sang de Christ tombant sur la page se répandit partout, effaçant l'écriture et rendant le papier immaculé. Bon, donc, le saint dit qu'il était maintenant rempli d'une paix divine. Il le sentait, il le savait. Il a pu se présenter enfin devant son Dieu. Voyez-vous, tant qu'un homme est sur la terre, il ne comprend pas la gloire et la félicité céleste qui est son immortelle destinée. Il est comme le poulet qui, dans sa coquille, ne peut se figurer la beauté du monde dans lequel il entrera. S'il déclarait que rien n'existe en dehors de son œuf, sa mère aurait beau l'assurer qu'il y a des prairies, des montagnes, un ciel bleu, lui, ne voyant rien, ne peut y croire. Lorsque sa coquille cédera, eh bien, pardonnez-moi, il verra que sa mère avait raison. Il en est de même pour nous, qui ne pouvons discerner ni le ciel ni l'enfer. Mais voyez-vous, lorsque se brisera notre enveloppe terrestre, ce qui est invisible deviendra visible. Cependant, certaines choses nous permettent d'entrevoir notre état futur. Comme le poussin a des yeux et des ailes dont il ne pourra se servir qu'une fois libre, ainsi il est en nous des désirs et des aspirations qui ne seront jamais satisfaits ici-bas. Il doit donc y avoir une vie future où ils se réaliseront. C'est la vie éternelle. Mais de même que l'oiseau doit être tenu au chaud aussi longtemps qu'il est dans sa coquille, tant que nous sommes dans le monde, il faut que la présence et le feu du Saint-Esprit nous couvrent et nous réchauffent. Chers amis, un pasteur tomba malade et couché sur son lit de souffrance, il entendit la voix de Dieu. « Maintenant tu auras le temps de parler avec moi, car en bonne santé, tu étais si occupé à parler aux autres que tu n'avais pas le temps de m'écouter. Comme la source remplie jusqu'à le faire déborder, à faire déborder le vase placé au-dessous d'elle, ainsi l'Esprit de Dieu remplit le cœur de celui qui s'abaisse pour le recevoir. Après être monté dans la solitude de la montagne de la prière, notre devoir est de retourner dans le monde des hommes et d'y porter la puissance nouvelle que nous avons reçue afin d'accomplir l'œuvre qui nous est demandée. Saint Paul dit « Dieu nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. » Il ne dit pas « après la mort seulement », mais déjà dans cette vie terrestre. J'étais un jour sur une haute montagne lorsque un terrible orage éclata. Mais je ne courais aucun danger, car l'orage, voyez-vous, elle se tenait au-dessous de moi. J'étais donc à l'abri dans le calme tout à fait merveilleux, tandis que les éclairs sillonnaient les nues. Et il en est ainsi pour l'enfant de Dieu, car tant qu'il est avec Christ dans les lieux célestes, eh bien Satan ne peut rien contre lui. Ce n'est que lorsqu'il quitte les auteurs de cette communion que la tentation et les péchés peuvent avoir prise sur lui. Rien ne peut ébranler ma foi. Quand un homme a soif et qu'on lui offre de l'eau, il boit et il est satisfait. Qu'on vienne lui dire « ce n'était pas de l'eau », il répondra insensé « je suis sûr que ça en était car assoiffé, j'ai bu et je suis désaltéré. Ainsi je sais que Jésus-Christ est vivant et qu'il donne la vie. » Bien des gens prétendent être chrétiens et n'ont pas la paix. Ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils savent son histoire, parfois même très bien, mais ils ne vivent pas en eux. Ils ignorent que Christ seul peut répondre aux désirs de leur cœur. Ils ont cherché le bonheur ailleurs et ne l'ayant pas trouvé, beaucoup sont tombés dans la désespérance, voulant parfois se donner la mort pour mettre fin à leur angoisse. Les vrais chrétiens ne sont jamais réduits au désespoir, parce que dans l'acte même de leur renoncement au monde, ils obtiennent la paix dans la communion avec Dieu. L'homme ne trouve que en Dieu la satisfaction de ses aspirations les plus profondes, mais il a également besoin de l'amitié et de la sympathie de ses semblables. Si ce souhait n'est pas exaucé, Christ, lui, peut y répondre et rassurer en quelque sorte cette âme qui est affamée. Ayant souffert comme l'un de nous, il peut comprendre toutes les peines et secourir les fils des hommes dans toutes leurs afflictions. La douleur, les tentations, la souffrance sont des étapes nécessaires au développement de notre vie spirituelle en concourant donc à notre bien futur. Nous devons accepter joyeusement tout ce qui nous arrive et ne jamais permettre que le moindre doute s'élève dans nos cœurs. Sinon, nous mettons une barrière entre Dieu et nous. Les chardes dans la chair dont parle saint Paul a été permise pour l'accomplissement de quelques plans très grands et sages. Il est absolument nécessaire que nous passions par des temps d'épreuve pour parvenir au but éternel pour lequel nous avons été créés. Comme les diamants et les pierres précieuses mettent des milliers d'années à se former et demandent être comprimés et pressurés dans les laboratoires de la nature avant d'atteindre leur perfection de beauté. Ainsi, il nous faut passer par la douleur et la souffrance pour être rendus parfaits. Il nous est impossible d'atteindre en un seul jour un état de perfection qui ne laisserait subsister aucun défaut en nous. Ce n'est qu'en vivant continuellement en la présence de notre Père Céleste et aussi près de lui que possible que nous deviendrons parfaits comme il est lui-même parfait. Un missionnaire raconta le fait suivant. Un jour, je m'assis sous le porche d'une maison. Un vent violent s'était mis à souffler. Or, un petit oiseau s'abattit, chassé par la rafale. Un faucon, venu de la direction opposée, fondit sur lui pour en faire sa proie. Menacé de deux côtés à la fois, l'oiseau tomba sur mes genoux. En général, il n'aime pas à s'approcher de l'homme. Mais au jour de l'adversité, il chercha refuge auprès de moi. Et c'est ainsi que le vent violent de la souffrance nous pousse dans le sein de Dieu. Une fois au cours de l'un de mes voyages, je vis un berger faisant passer son bétail de l'autre côté d'une rivière. Tout le troupeau traversa, à l'exception d'une vache et de son veau. Eux y paraissaient ne pas du tout vouloir franchir l'eau. Craignant qu'en les abandonnant, les bêtes sauvages ne les dévorent, le berger se mit à les battre pour les faire obéir, mais sans aucun succès. Et puis il essaya de les attirer en leur présentant un peu de foin, et ce fut tout aussi inutile. Je lui suggérai alors de porter le veau sur l'autre rive, ce qu'il a fait, et la vache les accompagna. Il en est de même lorsque, nous ne voulons pas suivre notre maître, il nous enlève ceux que nous aimons et il les prend auprès de lui. Nous sommes ainsi amenés à désirer les régions célestes où nos bien-aimés s'en sont allés et à nous préparer pour pouvoir les rejoindre tôt ou tard. Malgré une loi frappant les jeunes qui jouent à l'argent d'une bonne amende, deux jeunes hommes jouaient aux dés. Ils furent arrêtés et incarcérés. L'un était le fils d'un homme riche qui acquitta la somme tout simplement. L'autre fils était le fils d'une pauvre paysanne et il fut gardé en prison. Afin de l'en faire sortir, sa mère travailla sans relâche, portant de lourdes pierres qui la blessèrent aux mains et firent couler son sang. À travers les barreaux de sa prison, le jeune homme vit ses mains meurtries. « Mère, qu'est-ce que ces blessures et ce sang sur vos doigts ?»« Eh bien, mon fils, c'est en travaillant pour te sauver, pour te sortir de la prison, que je souffre ainsi. » À force de peine, la pauvre femme gagna les 500 roupies et libéra son fils. Peu après, le camarade qui était fortuné, le rencontrant, l'invita de nouveau à jouer. « Non, 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 » dit le jeune homme pauvre. « Vous, vous avez été délivré aisément, mais moi, je le fus par le dur travail, par les blessures et le sang de ma mère. Comment pourrais-je, à l'avenir, me livrer à ce jeu qui lui valent tant de souffrances? Oui, chers amis, ceux qui réalisent le prix que Christ a payé en versant son sang précieux pour les sauver ne peuvent plus vivre dans le péché qui a causé tant de douleurs à leur Sauveur. L'homme est un être libre qui, par un mauvais usage de sa liberté, peut porter atteinte à lui-même et aux autres. Nous ne faisons aucun tort à Dieu en péchant, mais nous faisons du tort à nous-mêmes et à ceux qui nous sont apparentés, car il n'est pas possible de commettre le mal sans que d'autres en souffrent. La repentance doit nous amener à nous abstenir des actes qui sont nuisibles et de nous conduire à faire comme Zachée. Sachez qu'il séparait le mal, a compris que le mal était sa perte, et qu'il fallait réparer le mal que nous pouvons avoir commis. Comme il y a du feu dans une pierre à feu, ainsi il y a dans le cœur de l'homme une soif intense de communion avec Dieu. Ce désir peut rester caché sous l'enveloppe dure de la pierre du péché et de l'ignorance. Mais au contact d'un homme de Dieu ou de l'Esprit de Dieu, ce désir s'enflamme comme le fait la pierre à feu lorsque elle est frappée par l'acier. Si mauvais que soit un homme et si corrompu que soit sa vie, il y a en lui un élément qui ne trouve aucun attrait au péché. Sa conscience peut être émoussée et près de mourir. L'étincelle divine ne s'éteint jamais. Mais chez les plus grands criminels, on découvre quelque chose de bon. Certains hommes, auteurs de crimes particulièrement sauvages, quand Dieu leur a fait comprendre l'horreur de ce qu'ils ont fait, ils ont commencé à aider des pauvres et des opprimés. Voyez-vous, puisque l'étincelle ou l'élément divin qui est en eux ne peut être détruit, nous ne devons désespérer d'aucun pécheur. Si constamment nous critiquons les autres, nous leur portons grandement préjudice, ainsi qu'à nous-mêmes. Si nous ne nous estimons pas autant, cela nous rendrait sympathiques et aimants vis-à-vis du prochain, et nous mériterions le pays promis, qui est le royaume de l'amour. Un jour, du premier au dernier mot, le prédicateur prêcha sur ce thème « renoncement et prière ». Il dit « Celle-ci est de peu de valeur si elle ne se traduit pas par le don de soi-même et pour le service de Dieu ». Notre Seigneur dit que nous sommes le sel de la terre. Ce n'est que lorsque ce sel fond qu'il communique sa saveur aux aliments. Sinon, que servirait-il d'en jeter dans un bol de riz bouillant? Mais parce qu'il s'y dissout, des milliers de grains deviennent savoureux. De même, lorsque nous voulons sauver les autres, nous devons faire le don de nous-mêmes. Sinon, nous ne deviendrons comme la femme de Lot que son amour du monde changea en une statue de sel. Car à quoi sert le sel qui ne fond pas? Beaucoup ne découvrent jamais leurs propres défaillances et leurs manquements et n'ont toujours en quelque chose en eux qui les tracasse. Ils sont toujours à la recherche des fautes d'autrui. Mais lorsque nous nous regardons dans un miroir, l'œil distingue ses propres défauts ou les taches du visage. Ainsi, en examinant nos vies à la lumière de la parole de Dieu, nous apprenons à nous connaître nous-mêmes. Christ ne se contente pas de nous montrer notre état de péché. Il se révèle à nous dans sa puissance de guérison. Si nous nous trouvons en quelque sorte assez bien et que nous nous tournons vers Christ, il fera disparaître nos imperfections et il nous transformera en son image glorieuse afin que pendant toute l'éternité, nous ayons part à sa gloire. Les savants et les philosophes qui croient à l'évolution parlent de la survivance des plus dignes par la sélection naturelle. Mais il y a aussi la surveillance des indignes, et ceci par la sélection divine, ça c'est tout autre chose. Elle est prouvée par le changement de millions d'êtres, ivrognes, adultères, meurtriers. Ils ont tous été retirés de la profondeur du péché et de la misère. Ils ont reçu une vie nouvelle de paix et de joie par le salut apporté par Jésus-Christ, venu dans le monde pour sauver les indignes. Les religions disent « Faites le bien et vous deviendrez bon ». Or, le christianisme enseigne « Vivez en Christ et vous ferez le bien ». La signification du rachat et du sang qui lave nos péchés, c'est que nous sommes greffés en Christ, morts en lui et donc en lui. Je veux dire morts en lui et lui en moi. Je répète la signification du rachat et du sang qui lave nos péchés. Cette signification, c'est que nous sommes tout simplement greffés en Christ. Donc on peut dire moi, toi, en lui, et lui ou moi, en moi. N'est-ce pas? Lui, Jésus-Christ, il sera en toi et en moi. C'est un rameau sauvage, hanté, on peut dire greffé sur l'arbre. Une fois greffé, la bonne sève de l'arbre circule à travers le rameau et ses fruits deviennent bons. Les bons chrétiens ne sont pas toujours ceux qui seulement confessent le Christ, mais ce sont ceux qui possèdent le Christ. Ce n'est pas la même chose. Je répète, les bons chrétiens ne sont pas ceux qui seulement confessent le Christ, mais ce sont ceux qui possèdent le Christ dans leur esprit et dans leur cœur. Beaucoup de chrétiens ont perdu le sens des beautés de l'Évangile. Le scepticisme, le rationalisme et la mondialité ont obscurci leur vision. L'Évangile du Christ, dans sa simplicité, dans sa grandeur et sa puissance, beaucoup de chrétiens, des chrétiens de nom, ne l'ont point trouvé ou en connaissent pas l'importance et le rejettent. Vous êtes comme un homme qui, possédant un diamant, mais ne sachant pas le prix, le vend au premier venu pour quelques euros. Je demande parfois à des chrétiens « Pourquoi croyez-vous en Jésus-Christ ?» Et on me répond « Parce qu'il est le Sauveur. » Quelle preuve avez-vous qu'il soit le Sauveur ? Mais c'est écrit dans la Bible. Alors je dis « Le fait qu'il ait parlé de Jésus-Christ dans un livre, même dans la Bible, n'est quand même pas tout à fait suffisant. » C'est dans votre cœur que vous devez le connaître. Alors vous saurez qu'il est votre sauveur. C'est tout autre chose d'avoir entendu parler du Christ, d'avoir lu son histoire ou de le posséder, lui personnellement, dans son esprit et dans son âme. Je dirais dans mon esprit et dans mon âme. La Bible dit « Quiconque est né de Dieu ne pèche point ». Autrement, on peut dire, cette parole me surprenait en quelque sorte. Mais maintenant, croyez-moi, c'est pas la même chose, car je commence à la comprendre, que le péché est généralement causé par la recherche du plaisir. Mais celui qui aime vraiment Dieu a en lui-même des sources de joie profonde, intarissables, au point que tout autre plaisir ne l'attire plus. Il ne pêche plus, il est comme un homme possédant un louis d'or, il ne sait que faire d'un sou qui est démonétisé. Il ne suffit pas que nos péchés quotidiens soient pardonnés. Il faut, comme fit l'apôtre Paul, que nous ayons dépouillé carrément le vieil homme. Il y a quelques catholiques qui attachent un grand prix à la rémission des péchés par l'absolution. Mais le mal, qui est à la racine du péché, il continue d'agir. Croyez-vous que les péchés, ou si vous voulez, que le pécheur qui se repent, doivent en quelque sorte penser continuellement à ses fautes et renouveler ses contritions? Ne vous mettez pas en peine de savoir si Dieu pardonne ou ne pardonne pas vos fautes. Le salut n'est point seulement le pardon des péchés, mais c'est surtout l'affranchissement du péché. Se sentir pécheur est un signe de santé spirituelle, d'accord? C'est lorsque nous n'avons pas conscience de notre péché que nous sommes en danger. Il en est de même pour ce monde comme de la mer dont l'eau est salée, mais non les poissons qui y nagent. Parce que, voyez-vous, les poissons ont la vie en eux-mêmes. Si nous recevons la vie de notre Sauveur, bien qu'étant dans le monde, alors nous serons, par sa divine grâce, libérés du péché qui y règne. Je parle de ma propre expérience, vous pouvez me croire. Nous devons nous confier en Christ sans jamais douter. Étendez surtout la main et croyez tout simplement. Et vous recevrez, croyez-moi, la bénédiction que vous attendez. Un homme vint au Seigneur avec une main sèche, rappelez-vous. Jésus-Christ, qui savait son désir, lui commanda « Étends ta main ». L'homme obéit et fut aussitôt guéri. Il aurait pu raisonner et dire « Quelle absurdité, quelle folie, si je pouvais mouvoir mon bras, je n'aurais pas besoin de toi ». Cher ami, étends la main de ta foi, sans raisonner ni douter, obéis, et tu verras que la puissance de Christ est là. Je suis témoin des grandes choses qu'il a faites pour moi, et il peut les faire également pour toi aujourd'hui. Le salut ne s'obtient pas par la science seulement, mais par la foi, en écoutant et en acceptant la parole de Dieu. Qu'il soit savant ou ignorant, jeune ou vieux, lorsque un homme a soif, ce qu'il demande, ce n'est pas de la science, mais de l'eau. Et avant de la boire, il n'a nul besoin de savoir qu'elle contient de l'oxygène ou de l'hydrogène. S'il attendait d'apprendre ce que sont ses corps, il pourrait bien mourir de soif. Depuis le temps les plus reculés, les hommes se sont désaltérés avec de l'eau sans se soucier d'en connaître la composition. De même, nous n'avons pas besoin d'être très instruits pour recevoir l'eau de vie qui est l'eau vive que Jésus-Christ veut nous donner et qui peut satisfaire notre âme. Un missionnaire raconta ceci. En 1951, un incendie éclata dans une forêt de l'Himalaya. Pendant que la plupart des gens essayaient de l'éteindre, d'autres hommes étaient arrêtés et contemplaient quelque chose au bout d'un arbre, on peut dire dans le haut d'un arbre. Et ils me montrèrent un nid, c'est ce que dit le missionnaire, rempli d'oisillons et entouré de branches qui étaient maintenant en feu. Or, un oiseau en proie à une grande angoisse voletait autour du nid. Combien nous aimerions sauver ces petits, disaient les témoins du drame. Mais cela est impossible, car le feu est trop intense pour que nous puissions approcher. Le missionnaire restait là à regarder, impuissant comme les autres spectateurs. Bientôt, je vis le nid s'enflammer à son tour. Je pensais que la mère oiseau allait s'envoler. Mais non, pas du tout. Elle se précipita au contraire dans les flammes, étendit les ailes sur ses petits pour les protéger. En un instant, victime de son amour, elle fut réduite en cendres. Je n'avais jamais rien vu de semblable. Aussi, me tournant vers mes compagnons, je leur dis: cet amour merveilleux nous étonne tous. S'il nous est donné d'être les témoins d'un tel dévouement chez une si petite créature, combien plus grands seront l'amour et le dévouement que nous rencontrerons chez le Créateur. Le même amour infini l'a amené à quitter le ciel et à prendre forme humaine afin de nous préserver en donnant sa vie et de mourir pour nos péchés. Nombreux sont ceux qui ont perdu le temps précieux qui leur avait été accordé pour le service de Dieu, mais ils peuvent maintenant encore se lever et faire l'usage le meilleur des jours qui leur reste à vivre. Sur la berge d'une rivière, un chasseur ramassa quelques pierres, des pierres magnifiques, et une à une, il les employa à tuer avec sa fronde les oiseaux qui étaient perchés sur les arbres non loin de là. Toutes tombèrent dans l'eau et disparurent. Eh oui! Et lorsque il rentra à la ville, une seule pierre lui restait en main. Près du bazar, il y avait un joaillier qui voit tout cela. Il le voit et il voit aussi surtout la pierre. Et c'était, voyez-vous, un diamant qui valait des milliers de dollars. Quand l'homme entendit cela, désespéré, il se lamenta. Malheur à moi, car j'ignorais leur grand prix et j'ai employé ces diamants à tuer des oiseaux. Emportés par le courant, ils sont maintenant à jamais perdus. Je n'en ai gardé qu'un seul. Si je les avais tous, je serais aujourd'hui millionnaire. Oui, chers amis, chaque jour est comme un diamant précieux. Et bien que beaucoup aient été dilapidés de ces jours-là, tout simplement à la poursuite des plaisirs et des choses de la terre, et qu'ils soient tombés dans les profondeurs du passé, il faut prendre conscience, oui, conscience de la valeur, de la valeur de ce qui nous reste et l'utiliser le mieux possible afin d'acquérir les richesses éternelles. Consacrer au service de Christ la vie qu'il vous a donnée avec toutes ses possibilités pour travailler au salut des autres, pour les arracher au péché et à la mort. Les hommes ont souvent le nom de Christ sur les lèvres, mais il n'est point dans leur cœur. Et c'est pourquoi ils n'obtiennent pas ce qu'ils désirent. Mais lorsqu'ils demeurent en lui et lui en eux, tout ce qu'ils demandent, ils le reçoivent parce qu'ils prient par le Saint-Esprit qui leur révèle ce qui glorifie le Père et ce qui est le meilleur pour eux-mêmes et pour les autres. Sinon, ils recevront la réponse qu'un méchant garçon obtint de la part du gouverneur auprès duquel il sollicitait la faveur d'un emploi. Il présenta sa requête au nom de son père, dont les services n'avaient été que courage et dévouement. Aussi le gouverneur, rappelant alors au jeune homme sa conduite et ses habitudes mauvaises, lui dit « Ne me demandez rien au nom de votre père, mais agissez premièrement selon son exemple surtout. Que sa noble vie ne soit pas seulement sur vos lèvres, mais qu'elle se reproduise en vous et votre démarche sera agréée. La chose essentielle est d'être en règle avec Dieu, alors toutes les souffrances s'enfuiront. Voyez-vous, les rationalistes disent « Commencez par nous expliquer toutes les choses difficiles et nos doutes s'enfuiront. » Il y a 5 ans, je me trouvais avec un docteur lorsque nous aperçûmes un homme qui pleurait à chaudes larmes. « Qu'y a-t-il donc ?» lui demanda le médecin. « En tombant, je me suis cassé le bras et j'ai tellement mal. Ne crains rien, dans une semaine, tu seras guéri et la douleur disparaîtra dès que j'aurai replacé l'os qui est cassé. Commence par m'enlever la douleur, dit l'homme. Après, tu feras tout ce que tu voudras. Insensé. Comment le pourrais-je? C'est l'os cassé qui cause la douleur. Et c'est seulement lorsque il sera remis en place que tu n'auras plus mal. On trouve beaucoup d'insensés pareils à celui-là. Nos doutes spirituels, les souffrances de notre âme sont causées par le péché. Mettez-vous en règle avec Dieu par la repentance et la foi en lui. Alors, la souffrance et le doute disparaîtront. J'ai parlé l'autre jour avec quelqu'un de très instruit qui m'assurait que la paix dont j'ai fait l'expérience, était tout simplement l'effet de mon imagination. Avant de lui répondre, je lui racontais l'histoire d'un aveugle né qui refusait de croire à l'existence du soleil. On le fit asseoir dehors, dans les tièdes rayons, par une froide journée d'hiver. « Comment te trouves-tu » lui demande-t-on. « Oh, j'ai bien chaud. C'est le soleil qui te réchauffe. Car même si tu ne le vois pas, tu en éprouves les bienfaits. Oh non, cela est impossible. Cette chaleur vient de mon corps et de la circulation de mon sang. Vous ne me ferez pas croire qu'il y a dans le ciel une boule de feu suspendue sans une colonne pour la soutenir. « Eh bien, demandai-je au savant, que pensez-vous de cet aveugle ? Il est simplement insensé, car, voyez-vous, il est peut-être pas tellement un érudit. Mais vous prétendez que ma paix est une illusion que je dis au médecin. Mais moi, j'ai expérimenté tout cela. c'est pas une illusion, mais c'est une réalité. Un homme prenant une corde essaya d'en défaire les nœuds. Son travail lui demanda plusieurs heures. Or, son petit garçon qui le regardait attacha l'autre bout de la corde à un arbre et il fit un nœud coulant. Il y passa la tête. Malheureusement, il s'est carrément étouffé pendant que le père était absorbé par son travail. Ce garçon s'est malencontreusement étranglé. Sa mère a vu tout cela et elle a couru, malheureux, qu'elle dit au père, « Ne vois-tu pas que l'enfant se meurt ? Et toi, au lieu de le sauver, tu défais les nœuds de ta corde. » Et l'enfant expira. Tel est le résultat des recherches inutiles. Il vaudrait mieux employer le temps qu'on y consacre à sauver les millions d'âmes qui sont en péril. Chers amis, l'idée populaire que les enfants sont innocents est juste au point de vue de la connaissance du mal, mais elle est entièrement fausse en ce qui concerne les impulsions mauvaises. Une demi-heure dans la chambre de jeu des petits nous en convaincra facilement. Les hommes prient. Ils disent « Que ta volonté soit faite ». Mais au fond de leur cœur, ils disent « Que ma volonté, surtout, puisse s'accomplir ». Ils ne savent pas que celle de Dieu est toujours la meilleure. Comme les prophètes trouvaient au moment où il prophétisait une source d'inspiration dans le Saint-Esprit, les aidant à révéler la vérité, nous éprouvons que sa beauté élève nos cœurs vers Dieu et pousse ceux qui sont capables d'en éprouver les effets à l'adoration. En remplissant dans un esprit de sacrifice tous nos devoirs envers les membres de notre famille, nous accomplissons la volonté de Dieu, aussi bien qu'en passant notre temps dans la prière, le jeûne ou l'éveil. Sans esprit de sacrifice, il est impossible de servir Dieu. Comment discerner la volonté de Dieu? C'est parfois difficile, mais par la prière, nous apprenons à la connaître. Si, en prenant certaines décisions, notre paix intérieure augmente, alors nous savons que nous sommes dans sa volonté. La prière est l'entier abandon du cœur à l'être suprême. Avant que l'homme commence à prier, croyez-moi, Dieu est déjà à l'œuvre. Dieu donne à la mère du lait pour alimenter son enfant. Mais le liquide ne vient dans la bouche du nourrisson que si celui-ci le prend. Ainsi Dieu, notre Père spirituel, a pour nous un lait qui ne nous sera accordé que si nous nous en emparons. Il faut que nous nous emparons, c'est-à-dire si nous prions de tout notre cœur. Et quand nous prenons ce lait spirituel, alors nous en connaissons la douceur, et comme l'enfant, nous devenons, on peut dire, nous devenons de jour en jour plus forts, et nous pouvons triompher de toutes les tentations. Tout ce que j'ai trouvé, je l'ai reçu uniquement dans la prière. La vie du ciel, elle commence sur la terre, lorsque nous vivons avec le Seigneur. Le christianisme n'est pas seulement une espérance à venir, mais une possession qui est déjà présente. Toutes les autres religions offrent une rédemption future. Le christianisme dit « voici maintenant le temps favorable ». Voici maintenant le jour du salut. Bien des chrétiens se réjouissent à la pensée d'entrer dans le ciel après leur mort et ne réalisent pas qu'il doit débuter ici-bas déjà. Le ciel, c'est Christ lui-même en nous. Dans cette vie, je suis déjà au ciel parce que je suis en Christ. Je n'aime pas à dire que j'ai été en prison, car j'étais en réalité au ciel. Mais pour expliquer la chose, je suis obligé d'employer ce mot-là. Beaucoup d'infortunés chrétiens s'attendent à aller dans l'au-delà après leur mort, mais ils ne savent pas que le ciel doit commencer sur la terre. Quand notre âme entre en communion avec Dieu, et que nous réalisons sa présence. Nous découvrons que le ciel, c'est posséder la parfaite paix de l'âme. Tout ce que nous aurons fait pour le Seigneur aura sa récompense. La vie chrétienne a un double aspect. Elle est en même temps une vie dans le ciel et une vie dans le monde. Celui qui voudrait ne vivre que dans le ciel courrait le danger de perdre ce qu'il a. Celui qui se donnerait totalement, entièrement au travail pour le monde risquerait d'oublier Dieu et il verrait tous ses efforts humains être insuffisants pour gagner le ciel. Le chrétien doit vivre et travailler dans le monde et avoir son cœur attaché au ciel où est sa demeure éternelle pour l'éternité. Parfois, voyez-vous, on trouve un arbre verdoyant et fertile dans un pays aride. Un soigneux examen révèle que ses racines plongent dans un courant d'eau qui est souterrain et invisible. Lorsque nous voyons un homme rempli de joie, ayant au milieu de la misère, au milieu du péché et de la souffrance de ce monde, une vie utile et bienfaisante, eh bien nous pouvons être certains que par la prière, les racines de sa foi plongent jusqu'à la source des eaux vives et puise à ce contact l'énergie et la puissance de porter des fruits pour la vie éternelle. Il est très difficile d'expliquer par la parole les profondes expériences de la vie cachée, mais lorsque les mots sont impuissants, l'action peut agir. Un jour, tandis que je méditais et priais, j'éprouvais avec force la présence de Dieu et mon cœur déborda d'une joie céleste. Je vis que sur cette terre de tristesse et de souffrance, il existe une source de joie intarissable que le monde ne connaît pas. Voyez-vous, chers amis, l'amour de Dieu et sans borne, c'est un océan, et des fleuves sortent incessamment de lui. Et dans son amour infini, Dieu désire le bonheur des êtres qu'il a créés. Il aime tous les hommes, non seulement les bons et ceux qui se confient en lui, mais Dieu, évidemment, il laisse à chacun le libre choix. Chers amis, nous allons prier maintenant ensemble et ensuite je vous dirai un ou deux passages importants concernant justement le libre choix. Prions. Dieu de fidélité, notre Père à tous, riche en compassion et en bonté. Tu veux que durant notre terrestre voyage, nous sachions nous reconnaître tous pour tes enfants. Qu'en ce jour, nous contemplions avec joie et reconnaissance le plus grand de tes fils, notre frère aîné, le Sauveur, qui regarda un jour le monde avec des yeux d'enfant, tout faible et vulnérable comme le sont nos petits à nous. Tu l'as protégé après sa naissance contre tous les dangers. Tu l'as fortifié dans ton alliance et il croissait en stature et en grâce devant toi et devant les hommes. Permets, Seigneur, que nos enfants bien-aimés à leur tour parviennent dans ton Église à la communion avec toi. Que ta main tutélaire et ta bénédiction reposent sur eux aussi, pour les préserver du mal, pour qu'ils croissent dans ta connaissance, dans ta crainte et dans ton amour, pour qu'avec nous, enfin, ils montent sans cesse et soient ainsi élevés jusqu'à ton royaume éternel. Amen. Amen. Et chers amis, ce que je voulais vous dire avant de nous quitter, voyez-vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas, selon Romains chapitre 8, verset 9. Donc, celui qui a le Fils de Dieu, Jésus-Christ, à la vie éternelle. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu, Jésus-Christ, n'a pas la vie éternelle. C'est un mort vivant. Donc, il est déjà mort, bien que pour l'instant encore, il est vivant en apparence. Notez, je vous prie, la première épître de Jean, chapitre 5, verset 12. J'ai pris cela du Bible Illustrator, mais vous le trouverez dans n'importe quelle Bible, qu'elle soit catholique, protestante, etc. Vous trouverez tout cela. Chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et j'espère que vous écouterez aussi les prochains qui vont devenir de plus en plus intéressants. À bientôt à nouveau, mes très chers amis. Au revoir.